Chapitre 26. Notre ami le major. Notre ami le major s'était rendu si populaire à bord qu'au moment où lui et M. Sedley descendirent dans le canot qui vint les prendre pour les débarquer, tout l'équipage, matelots et officiers, à commencer par le capitaine, l'accompagnèrent de hurrahs d'adieu qui firent rougir le major, et il secoua la tête en signe de remerciement. Joss, persuadé que ces acclamations étaient pour lui, ôta son chapeau à galons d'or et l'agita avec une grâce pleine de majesté. En quelques coups de rame, le canot fut au rivage. Nos deux voyageurs descendirent sur le port et se dirigèrent vers l'hôtel du roi George. La vue de la réjouissante tranche de bœuf, du pot d'argent couronné d'écume qui, dans les magnifiques salons du roi George, accueille le voyageur au retour de ses courses lointaines, n'eurent point assez d'empire sur Dobbin pour le décider à passer plusieurs jours au milieu de ses douceurs et de ce bien-être. Dès son arrivée, il demanda des chevaux de poste, et à peine à Southampton, il aurait voulu être déjà sur la route de Londres. Joss se refusa obstinément à quitter le soir même cette nouvelle capoue. À quoi bon passer la nuit au milieu des chaos de la route, alors que la plume et l'édredon vous invitent à une douce et moelleuse paresse, au lieu et place de cet affreux lit de Procuste, sur lequel les voyageurs qui reviennent du Bengale sont obligés de s'étendre dans leur étroite et incommode cabine. Joss ne comprenait pas que l'on pût songer à partir avant d'avoir retrouvé son bagage, que l'on pût se remettre en route avant d'avoir au moins pris un bain. Le major se vit donc forcé d'attendre encore pour cette nuit et d'annoncer tout simplement par lettre son arrivée à sa famille. Dobbin supplia Joss d'écrire de son côté à ses amis. Joss promit, mais ne tint pas sa promesse. Le capitaine, le chirurgien et un des deux passagers vinrent dîner à l'hôtel avec nos deux amis. Joss déploya toute sa science à commander un dîner. Il promit qu'il partirait le lendemain avec le major pour Londres. L'hôtelier racontait depuis que c'était un plaisir de voir avec quelle satisfaction M. Sedley huma sa première pinte de bière, comme doit faire tout bon Anglais qui, après une longue absence, remet le pied sur le sol britannique. Le lendemain matin, de très bonne heure, suivant son habitude, le major Dobbin était sur pied, tout rasé et tout habillé. Personne n'était levé dans l'auberge, à l'exception de celui qui fait les souliers et qui semble être une créature pour laquelle le sommeil est un mythe. Le major pouvait entendre les gens de la maison ronfler en chœur, tandis que lui errait à l'aventure dans les corridors déserts. À ce moment, le décrotteur, dont les yeux ne se ferment jamais, allait de porte en porte faire sa distribution de bottes à revers, bottes à haute tige, demi-bottes, etc., etc. Le domestique indigène de Joss se leva enfin, prépara le hookah de son maître et disposa son formidable attirail de toilette. Les filles d'auberge commençaient alors à sortir de leur soupente et, rencontrant le nègre dans les couloirs, elles furent tout effrayées, pensant se trouver en face du diable. Lui et Dobbin faillirent plus d'une fois se laisser tomber au milieu des seaux qui obstruaient le passage et dont elles se servaient pour laver l'hôtel du roi George. Enfin, l'un des garçons vint ouvrir la porte et tira les verrous. Le major crut qu'enfin l'heure du départ était sonnée et il demanda sur le champ une chaise de poste pour se mettre en route. Puis il se rendit à la chambre de Sedley et, écartant les rideaux d'un lit immense où Joss s'évertuait à ronfler, « Debout, debout !» lui cria le major. « Il est temps de partir. La voiture sera à la porte de l'hôtel avant une demi-heure. » Joss se mit à grogner contre le malencontreux interrupteur de son sommeil et demanda à quelle heure il était. Quand le major, qui ne savait point mentir, quelque avantage qu'il en pût tirer, lui eut avoué, en rougissant la vérité sans détour, Joss fit pleuvoir sur lui une grêle d'imprécations que nous ne consignerons point ici, mais qui n'aurait point laissé le doute à Dobbin au sujet de la damnation éternelle de son ami s'il avait dû comparaître incontinent devant le juge suprême. Il envoya le major à tous les diables. Il lui déclara qu'il ne voyagerait pas avec lui, que c'était le comble de la cruauté, de l'inconvenance, que de venir troubler ainsi le sommeil d'un honnête homme. Le major dut battre en retraite devant l'ouragan qu'il venait de soulever et laissa Joss reprendre le fil de son sommeil. Pendant ce temps, la chaise de poste était amenée devant l'auberge. Le major monta dedans et partit sans plus de retard. Il eût été un grand seigneur anglais voyageant pour son plaisir, ou bien le courrier d'un homme de bourse, car ceux du gouvernement ont d'ordinaire des allures plus pacifiques, qu'il n'aurait pas couru la grande route avec plus de célérité. Les postillons, en voyant les pourboires qu'il leur jetait, prenaient Dobbin pour un prince déguisé. Comme elle lui paraissait verte et souriante, cette campagne qui, dans la rapidité de sa course, semblait fuir bien loin derrière lui. Comme elle lui paraissait aimable et animée, ces petites villes où les bateliers venaient à sa rencontre avec de gais sourires et de profonds saluts. Il passait comme un ouragan devant ces auberges placées au bord de la route, dont les enseignes pendaient aux arbres, où chevaux et charretiers s'arrêtaient pour se rafraîchir sous un ombrage épais. Devant les vieux châteaux avec leurs parcs, devant les chaumières groupées autour d'une antique église, enfin il foulait le sol anglais, enfin il respirait l'air natal. Est-il au monde une joie que l'on puisse comparer à celle-là? Tout prend un air de fête aux yeux du voyageur qui revient dans sa patrie. Tout, sur son passage, semble le saluer et lui souhaiter sa bienvenue. Et pourtant, le major Dobbin, sur la route de Southampton à Londres, ne voyait rien autre chose que le chiffre décroissant des bornes millières. Ah, n'en doutez pas, c'est qu'il était pressé de revoir sa famille, d'embrasser sa mère et ses sœurs. Une fois à Piccadilly, il compta les secondes qu'il lui fallut pour se rendre à son ancien logis chez Slaughter, auquel il ne voulut point faire d'infidélité. 10 années s'étaient écoulées depuis qu'il y avait fait sa dernière visite, depuis que George et lui, ils étaient jeunes alors, y avaient donné de joyeux déjeuners, y avaient fait maintes parties. Ils étaient maintenant passés dans la catégorie des vieux garçons. Ses cheveux grisonnaient. Les passions, les sentiments de sa jeunesse s'étaient refroidis aux glaces de l'âge. Il retrouva sur la porte le même garçon, de 10 ans plus vieux, mais dans le même habit bien gras, toujours avec la même quantité de cachets en breloques, avec la même manière de remuer son argent dans ses poches. Il reçut le major absolument comme s'il était le retour d'une absence de 8 jours. « Les effets du major au numéro 23, » dit John sans témoigner la moindre surprise. « C'est la chambre qu'on lui donne d'habitude. « Que voulez-vous pour votre dîner? Du poulet rôti, je pense. Eh bien, êtes-vous marié maintenant? Le bruit courait que vous étiez marié. Le chirurgien écossais de votre régiment, non, c'était le capitaine Humbey du 33e, en garnison avec le vôtre à Angie, qui racontait cela. Prendrez-vous un grog? Pourquoi êtes-vous venu en poste? La diligence ne vous aurait-elle pas aussi bien amené? » Là-dessus, le fidèle John, dont la mémoire ne perdait le souvenir d'aucun des officiers qui fréquentaient sa maison, qui savait tous les égards qu'il leur devait et avec qui 10 années ne faisaient pas plus d'effet qu'un jour, conduisit Dobbin à son ancienne chambre, où le major retrouva son grand lit au rideau de serge, son vieux tapis, peut-être encore plus rapiécé, et l'ancien mobilier en bois noir recouvert d'une étoffe foncée, telle que le major se rappelait l'avoir vu au temps de sa jeunesse. Il se figurait voir encore Georges arpenter à grands pas cette chambre la veille de son mariage, se ronger les ongles et jurer qu'il faudrait bien que son père finisse par mettre les pouces, et que si, en définitive, il ne cédait pas, alors il s'arrangerait pour pouvoir se passer de lui. Tous ces détails lui revinrent aussi clairs, aussi précis, que si c'eût été hier. « Vous n'avez pas rajeuni, » dit John, en examinant son ancienne connaissance. Dobbin se mit à rire. « 10 années et la fièvre ne sont pas faits pour vous ôter des années, mon garçon, » dit-il à John. « Quant à vous, vous êtes toujours jeune, ou plutôt non, vous êtes toujours vieux. »« Qu'est devenue la veuve du capitaine Osborne ?» reprit John. « C'était un bon garçon, celui-là, un gaillard qui ne comptait pas avec l'argent. Il n'est pas revenu depuis le jour où il a été se marier en quittant d'ici. Il me doit encore 3 guinées. Regardez, c'est inscrit sur mon livre. 10 avril 1815. Le capitaine Osborne, 3 livres sterling. Si jamais j'en reçois le paiement de son père, cela m'étonnera bien. » En disant ces mots, John remit dans sa poche son carnet de maroquin où se trouvait inscrite la dette du capitaine, sur une page sale et crasseuse, qui restait entière au milieu d'une foule d'autres notes griffonnées, portant également le montant des dettes des autres habitués de la maison. Après avoir installé son client dans la chambre qui lui était destinée, John se retira avec un calme parfait. Le major Dobbin, moitié rouge, moitié souriant des sottises de ce vieux radoteur, tira de sa valise le plus beau et le plus élégant costume de ville qu'il eut en sa possession. Il fut pris d'un mouvement de gaieté en voyant dans une petite glace placée au-dessus de sa toilette sa figure brûlée par le soleil et ses cheveux grisonnants par l'âge. « C'est de bon augure, pensa-t-il, que le vieux John se soit souvenu de moi. Elle me reconnaîtra peut-être aussi, je l'espère. » Et il sortit de l'hôtel en prenant, comme autrefois, le chemin de Brompton. Tout en marchant, il retrouvait les moindres incidents de sa dernière entrevue avec Amelia, aussi présents à sa mémoire que si c'eût été la veille. L'Arc de Triomphe et la statue d'Achille, élevée dans Piccadilly depuis qu'il y était venu, ne frappèrent que très faiblement ses yeux et son esprit. Mais il fut pris comme d'un frisson général en entrant dans un passage qui conduisait à la rue de Brompton, où se trouvait la demeure d'Amelia. Était-elle ou non mariée? S'il la rencontrait avec son petit garçon, qu'allait-il lui dire? Il aperçut une femme qui se dirigeait de son côté, menant à la main un enfant de 5 ans. C'était elle, peut-être. Il ne lui en fallut pas davantage pour le faire trembler comme une feuille. Quand il fut enfin devant sa maison, quand il se vit en face de la porte, il saisit la sonnette et s'arrêta un moment. Il aurait presque pu entendre les battements de son cœur contre sa poitrine. « Quoi qu'il en soit, se dit-il enfin en lui-même, que le Seigneur Tout-Puissant répande sur elle ses bénédictions. « Allons, ajouta-t-il, comme pour se donner du courage, peut-être est-elle sortie en ce moment. » Cette réflexion était bien faite pour le décider à entrer. La fenêtre de la pièce où elle se tenait d'ordinaire était ouverte et personne n'était dans la chambre. Le major crut apercevoir le piano et le tableau placés au-dessus, qui occupaient toujours la même place qu'autrefois. Alors les mêmes inquiétudes vinrent l'assaillir. Mais la plaque de cuivre indiquait bien la porte de M. Clapp, et Dobbin, soulevant le marteau, le laissa retomber de tout son poids. Une jeune fille de 16 ans, à l'air mutin, aux yeux vifs, aux joues roses, accourut à cet appel, et regarda fixement le major qui se soutenait contre le mur. Il était pâle et défait comme un mort, et il eut grand-peine à retrouver assez de force pour murmurer ces mots. « Mrs. Osborne demeure-t-elle encore ici ?» La jeune fille poursuivit son examen pendant quelques minutes encore, puis pâlissant à son tour, « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-elle, « c'est le major Dobbin !» Et elle lui tendit la main. « Vous ne vous souvenez plus de moi, lui dit-elle, je vous appelais le major Sucre d'Orge. » Aussitôt, et c'était la première fois de sa vie qu'il se livrait à un pareil transport, le major serra étroitement la jeune fille et l'embrassa. Pour elle, elle se mit à rire, à se livrer au transport d'une folle gaieté, à pousser des cris de joie, à appeler son père et sa mère de toute la force de ses poumons. Le digne couple ne tarda pas à paraître. Déjà, ils avaient aperçu le major à travers la fenêtre de la cuisine et n'avaient pas été peu surpris de voir leur jeune fille entre les bras d'un grand gaillard en habit bleu et en pantalon blanc. « Vous ne reconnaissez donc pas votre vieille amie ?» leur dit-il, non sans rougir un peu. « Vous ne vous souvenez donc plus de moi, Mrs. Clapp, et de ces bons gâteaux que vous étiez dans l'usage de me faire pour le thé ? Regardez-moi bien, Clapp, je suis le parrain de Georges. Me voici tout frais débarqué de l'Inde. » On se donna aussitôt de bonnes poignées de main. Mrs. Clapp parut à la fois fort attendrie et fort charmée, et elle prit plusieurs fois le ciel à témoin de sa joie. Le maître et la maîtresse du logis conduisirent le digne major aux appartements de Sedley. Il reconnut jusqu'aux moindres parties de l'ameublement, depuis le vieux piano, qui avait bien eu aussi son mérite dans son temps, jusqu'aux écrans et aux petits porte-montres en albâtre, dont le disque blanchâtre encadrait la montre d'or du vieux Sedley. Dobbin se plaça dans le fauteuil vacant de son ancien ami. Le père, la mère et la fille, en entremêlant leurs récits des exclamations les plus pathétiques, informèrent le major des faits que nous connaissons déjà, mais qu'il ignorait pour sa part complètement, tels que la mort de Mrs. Sedley, l'installation de George chez son grand-père Osborne, la séparation qui avait été si cruelle pour sa mère enfin, et tous les autres détails de la vie d'Amelia. Deux ou trois fois, il fut sur le point d'entamer la question du mariage, et deux ou trois fois, il s'arrêta tout court pour ne point exposer à leurs yeux les secrets de son cœur. On lui apprit enfin que Mrs. Osborne était allée se promener avec son père à Kensington Gardens, où elle accompagnait toujours ce vieillard, désormais si faible et si débile, ce qui rendait bien triste et bien pénible l'existence de cette pauvre femme qui se conduisait comme un ange à l'égard de son père. « Je suis fort à court de temps, » dit alors le major, « et je suis pris ce soir par des affaires d'importance. Je serais pourtant bien aise de voir Mrs. Osborne. Miss Polly pourrait-elle m'accompagner et me montrer le chemin ?» Miss Polly fut à la fois charmée et surprise de cette proposition. Elle connaissait le chemin et ne demandait pas mieux que de le montrer au major Dobbin. Elle allait, elle aussi, fort souvent, avec M. Sedley, les jours où Mrs. Osborne se rendait à Russell Square. Elle connaissait le banc favori du vieillard. Elle alla donc bien vite s'apprêter, et au bout de quelques minutes, elle redescendit avec son plus beau chapeau, le châle jaune de sa mère, une grande broche en caillou d'Irlande, qu'elle avait pris également à sa mère, afin de faire meilleure mine au bras du digne major. Dobbin, en habit bleu et en gants de peau de daim, offrit son bras à la jeune fille, et ils partirent comme un couple joyeux. Le major n'était pas fâché de sentir quelqu'un près de lui pendant cette entrevue qui lui inspirait une certaine terreur. Il fit à sa compagne 1000 questions sur Amelia. L'excellent cœur du major saignait à la pensée que la pauvre mère avait eu à se séparer de son fils. Comment avait-elle supporté cette dure extrémité? Le voyait-elle souvent? Monsieur Sedley avait-il au moins les moyens de mener une vieillesse douce et facile? Polly s'efforçait de satisfaire de son mieux à toutes les questions du major. Au milieu de leur course, il survint un petit incident qui fut la source d'un très vif plaisir pour notre ami. Ils rencontrèrent un jeune homme aux pâles couleurs, aux favoris clairsemés, à la cravate blanche et roide, et qui se promenait en sandwich, c'est-à-dire ayant une femme à chaque bras. L'une des deux était grande et maigre, d'un âge moyen, avec une expression et les allures frappantes par leur conformité avec celle du ministre anglican à côté de qui elle s'avançait. L'autre était une petite femme à mine terreuse, ornée d'un magnifique chapeau neuf couvert de rubans blancs, enroulée dans une pelisse splendide, dont l'adroit ajustement laissait entrevoir sur sa poitrine le large disque d'une montre en or. Le monsieur flanqué de ces deux dames portait en outre un parasol, un châle et un panier, si bien qu'il avait les deux mains complètement embarrassées et qu'il ne put lever son chapeau pour répondre au salut dont le gratifia Miss Mary Clapp. Il lui fit toutefois un gracieux mouvement de tête, tandis que les deux dames se bornaient à un petit salut protecteur et jetaient des regards sévères et soupçonneux sur ce monsieur en vêtements bleus, en canne de bambou, qui accompagnait Miss Polly. « Quelles sont ces personnes ?» demanda le major, fort diverti par ce trio burlesque, lorsqu'il fut assez loin pour ne pouvoir plus en être entendu. Mary le regarda avec un petit air malicieux. « C'est notre ministre, le révérend M. Binet. » Le major tressaillit. « Avec sa sœur Miss Binet. » »« Dieu merci, elle nous a assez tourmentés avec son école du dimanche. » Et l'autre petite dame, qui a une paille dans la vue et une si belle montre sur l'estomac, c'est Mrs. Binet, autrefois Miss Gritz. Son père était épicier et tenait une boutique à la Cloche d'Or, Kensington Gravel. Ils se sont mariés le mois dernier et les voilà de retour de Margate. Elle possède 500 livres sterling de revenus. Mais la brouille s'est mise entre elle et Miss Binet qui a conduit tout ce mariage. Le major fut presque tenté de faire des sauts de joie. Il frappa le sol de sa canne d'une manière si bizarre que Miss Clapp ne put retenir une exclamation et s'empêcher de rire. Puis il resta quelques moments silencieux, la bouche béante, suivant des yeux le couple qui s'éloignait, tandis que Miss Mary lui donnait tous les détails qui les concernaient. Mais la seule chose qu'il eût entendue, c'est que le ministre avait épousé une autre femme qu'Amelia, et cela lui suffisait pour ouvrir son cœur à la joie. Après cette rencontre, on pressa le pas pour arriver plus vite à destination, et ils arrivèrent encore trop tôt, car le major frissonnait d'autant plus à l'idée de cette entrevue qu'il n'avait pas été un seul jour sans désirer dans le cours des 10 dernières années. Enfin, ils atteignirent l'antique portail formant l'entrée de Kensington Gardens. « Nous y voici, » dit Miss Polly, et elle sentit de nouveau le bras de Dobbin tressaillir sous le sien. Elle savait, du reste, à quoi s'en tenir. Sa jeune mémoire avait conservé le souvenir de toutes les confidences passées. « Allez devant, lui dit le major, pour l'avertir. » Polly partit comme un trait et son châle flottait derrière elle au souffle du vent. Le vieux Setley était assis sur son banc, son mouchoir placé à côté de lui. Il redisait, suivant son habitude, pour la centième fois, quelque vieille histoire du temps de sa jeunesse à la pauvre Amelia, qui la savait déjà par cœur et qui avait encore un sourire résigné pour le récit du vieillard. Toutefois, à force d'entendre les racontages de son vieux père, elle pouvait désormais sourire en toute sécurité sans même prêter l'oreille et penser à ses propres affaires. Voyant Mary arriver en courant, Amelia se leva tout effarée de son banc. Sa première pensée fut qu'il était arrivé quelque malheur à Georgie. Mais la figure empressée et joyeuse de la messagère eut bien vite dissipé les craintes qui s'élevaient dans le cœur de cette tendre mère. « Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! » criait l'éclaireur de Dobbin. « Il est arrivé ! Il est arrivé !»« Qui cela ? » dit Amy, pensant toujours à son fils. « Regardez par là !» répondit Miss Clapp en faisant un demi-tour et en étendant la main dans la direction qu'elle indiquait. Amelia aperçut alors la pâle figure de Dobbin et les immenses contours de son ombre qui se dessinaient sur l'herbe. Ce fut à son tour de tressaillir, de rougir et de pleurer. Dans les grandes circonstances, les larmes étaient toujours le suprême recours de cette douce et simple créature. Les yeux de Dobbin s'arrêtèrent avec tendresse sur Amelia. Elle était bien toujours la même. Seulement ses joues étaient un peu pâles, sa figure un peu plus pleine. Ses yeux, comme autrefois, exprimaient la bonté et la confiance. Quelques fils d'argent se mêlaient à sa noire chevelure. Elle tendit les deux mains à Dobbin avec un sourire voilé par les larmes. Et lui, saisissant ses deux mains amies, les serra quelques instants dans les siennes, au milieu d'une contemplation muette. Que ne la serrait-il dans ses bras? Que ne lui jurait-il que, dorénavant, il resterait pour toujours auprès d'elle? Certainement, il n'eût trouvé alors aucune résistance de sa part. J'ai à vous annoncer l'arrivée d'un autre personnage, fit-il après un moment de silence. De Mrs. Dobbin? Demanda Amelia avec un mouvement involontaire. Non, non, répondit-il en lui lâchant les mains. Qui a pu vous faire un pareil mensonge? Nous avons fait la traversée avec Joss sur le même bâtiment, et il revient pour vous donner l'aisance et le bonheur. « mon père !» s'écria Amy, « écoutez ces bonnes nouvelles. Mon frère est en Angleterre. Il vient prendre soin de vous. Voici le major Dobbin. » M. Sedley releva la tête comme un homme qui est pris à l'improviste et qui cherche à recueillir ses pensées. Il fit au major un profond salut à l'ancienne mode en lui demandant si son digne père, Sir William, était toujours en bonne santé, ajoutant qu'il se proposait d'aller lui rendre prochainement la dernière visite qu'il en avait reçue. Il y avait 8 ans que Sir William n'était venu voir le pauvre Setley, et c'était cette visite que le bon vieillard songeait à rendre. « Il n'a plus sa tête bien présente, » dit tout bas Amy à Dobbin, au moment où ce dernier serrait cordialement la main du vieillard. Malgré les importantes affaires que Dobbin prétextait avoir à Londres ce soir-là, le major, sur l'invitation de M. Setley, consentit à prendre le thé. Amelia, donnant le bras à sa jeune amie, ouvrit la marche avec elle, tandis que M. Setley restait en partage à Dobbin. Le vieillard marchait très doucement, et il en profita pour raconter à son compagnon une foule d'anciennes histoires sur lui, sur sa pauvre chère épouse, sur sa prospérité passée, et enfin sur sa banqueroute. Ses pensées, comme cela arrive toujours pour les vieillards dont la mémoire faiblit, se reportaient tout au premier temps de la vie, et le passé pour lui se résumait à peu de choses près dans la catastrophe qu'il avait subie. Le major le laissait parler tout à son aise. Ses yeux, pendant ce temps, ne quittaient point l'être adoré qui marchait devant lui, cette chère petite image toujours présente sur son imagination, toujours associée à ses prières, divine apparition qui venait embellir tous ses rêves. Ce soir-là, le bonheur, la joie intérieure d'Amelia éclatait dans ses traits et dans ses mouvements. Elle s'acquitta de ses devoirs de maîtresse de maison avec une grâce et une délicatesse parfaites. Telle fut, du moins, l'avis de Dobbin, qui la suivait des yeux à travers la demi-obscurité du jour sur son déclin. Il était donc enfin arrivé pour lui ce moment après lequel il soupirait depuis si longtemps. Combien de fois, sur les rives lointaines, sous les brûlantes ardeurs du soleil de l'Inde, au milieu de marches forcées, sa pensée, traversant les mers, ne s'était-elle pas transportée auprès d'elle? Alors elle lui était apparue telle qu'il la voyait maintenant, comme un ange consolateur pour la vieillesse et l'infirmité, et rehaussant son indigence de toute la grandeur de sa résignation. Le major trouvait le thé d'autant meilleur qu'il le recevait de la main d'Amélia, et Amélia lui servait tasse sur tasse, se faisant un malin plaisir d'encourager cette disposition. À vrai dire, elle ignorait que le major n'avait point encore dîné et que son couvert l'attendait chez Slaughter, à cette même place où George et Dobbin avaient fait ensemble de joyeux repas dans le temps où Amélia n'était encore qu'une enfant, une élève à peine sortie de la maison de Miss Pinkerton. La première chose que Mrs. Osborne fit voir au major fut la miniature de Georgie. Ce fut la première chose qu'elle monta chercher en arrivant à la maison. L'enfant, bien entendu, était 10 fois plus joli, mais n'était-ce pas d'un noble cœur d'avoir pensé à l'apporter à sa mère? Jusqu'au moment où son père alla se coucher, elle ne parla pas beaucoup de Georgie. Il était trop douloureux pour lui d'entendre parler de M. Osborne de Russell Square. Il ne se doutait point assurément que depuis quelques mois, il ne vivait que des bienfaits de son rival. Et ce nom prononcé en sa présence eût excité de sa part la plus vive colère. Dobbin raconta à Amélia ce qui s'était passé à bord du Ramchander et exagéra peut-être encore les bienveillantes dispositions de Joss à l'égard de son père. Ce qu'il y avait de certain, c'est que le major, par son insistance pendant le voyage, à représenter à son compagnon les devoirs que sa position lui imposait vis-à-vis de son père, avait fini par lui arracher la promesse qu'il se chargerait de sa sœur et de son neveu. L'irritation de Joss à propos des billets que le vieillard avait tirés sur lui s'était un peu calmée au récit que Dobbin lui avait fait de ses petites misères personnelles, du fameux envoi de vin dont le vieillard l'avait favorisé. Enfin, par ses ménagements, il avait amené M. Joss, qui, après tout, n'était pas d'un caractère intraitable, quand on savait le prendre par la douceur et la flatterie, à manifester des dispositions très favorables pour la famille qu'il allait retrouver en Europe. En un mot, s'il faut le dire, le major donna une entorse à la vérité au point d'affirmer au vieux M. Sedley que la cause du retour de Joss en Europe était l'unique désir de le revoir. À son heure ordinaire, le vieux M. Sedley commença à ronfler dans son fauteuil, et Amélia put alors entamer cette conversation qu'elle désirait si ardemment, puisque Georgie devait en être l'objet exclusif. Elle ne dit rien à Dobbin des souffrances que lui avait coûté la séparation, car bien que cette blessure fût pour elle ouverte et toujours saignante, elle regardait comme un sentiment condamnable son regret de ne plus l'avoir près d'elle. Mais elle avait 1000 choses à lui dire sur tout ce qui tenait à son fils, sur ses qualités, ses talents, son avenir. Elle lui dépeignait sa beauté angélique, lui cita 1000 exemples de sa générosité, de la noblesse de son cœur. Quand il était encore avec elle, une princesse de sang royal l'avait arrêté pour l'admirer dans Kensington Gardens. Maintenant, il coulait ses jours au milieu de tous les raffinements du luxe et de l'opulence. Il avait un groom, un poney. Sa gentillesse et sa vivacité étaient incomparables. Enfin, le révérend Lawrence Peel, le maître de George, était un homme prodigieux pour son érudition et l'agrément de sa conversation. « Il sait tout, disait Amélia. Il a des réunions charmantes. Allons, monsieur, avec votre instruction, les hautes connaissances que vous possédez et toutes vos perfections en esprit et en science, vous avez beau branler la tête pour dire non, il me le disait bien souvent, vous aurez un véritable plaisir à venir aux réunions de M. Ville. C'est le dernier mardi de chaque mois. Il prétend qu'au barreau et dans la politique, il n'y a point de place à laquelle Georges ne puisse prétendre. Regardez-moi ceci. » Ouvrant alors un tiroir de table, elle présenta au major un travail de la façon de Georges. Voici le texte de ce chef-d'œuvre qui se trouve encore en la possession de la mère de Georges. L'égoïsme. De tous les vices qui dégradent la nature humaine, l'égoïsme est le plus odieux et le plus méprisable. Un amour exagéré de soi-même conduit aux crimes les plus monstrueux et occasionne les plus grands malheurs dans les États comme dans les familles. Un homme égoïste appauvrit sa famille et cause souvent sa ruine, tout comme un monarque égoïste cause la ruine de son peuple en le précipitant dans la guerre. Exemple, l'égoïsme d'Achille, comme l'a remarqué Homère, causa aux Grecs des maux sans nombre. L'égoïsme de feu Napoléon Bonaparte plongea l'Europe dans des guerres sans fin et le fit périr sur un misérable rocher de l'océan Atlantique à Sainte-Hélène. Nous voyons par ces exemples que nous ne devons point consulter notre ambition ou notre intérêt personnel, mais prendre en considération l'intérêt des autres aussi bien que le nôtre. George Sedley Osborne, Athénée House, 24 avril 1827. Eh bien, que dites-vous de ce style et de ces citations grecques à son âge ? Disait la mère en extase. Oh, William, ajoutait-elle, en prenant la main du major, quel trésor m'est venu du ciel lorsqu'il m'a donné ce fils ! C'est la joie et la consolation de ma vie, c'est l'image vivante de celui qui n'est plus. Puis-je lui en vouloir de sa fidélité ? Se disait Tobin à lui-même. Puis-je être jaloux d'un ami qui maintenant repose dans la tombe, ou me trouver blessé si un cœur comme celui d'Amélia ressent un amour éternel? Georges, Georges, vous n'avez pas su apprécier le trésor que vous aviez là. Ces réflexions traversèrent l'esprit de William en moins de temps que nous n'en mettons à les dire, tandis qu'il tenait la main d'Amélia et que celle-ci passait son mouchoir sur ses yeux. Mon bon ami, lui disait-elle en lui serrant la main qu'elle tenait dans la sienne, vous avez toujours été pour moi d'une bonté, d'un dévouement exemplaire. Ah, voici mon père qui s'éveille. Vous irez voir Georges demain, n'est-ce pas ? Demain, je ne pourrai pas, répondit le bon Dobbin. Demain, j'ai beaucoup à faire. Il ne voulait pas lui avouer qu'il n'avait pas encore été voir sa famille, embrasser sa sœur aînée. Il se décida enfin à prendre congé d'elle et à lui laisser son adresse pour Chosse lorsqu'il serait arrivé. Ainsi s'écoula sa première journée, cette journée où il la revoyait pour la première fois. Quand il rentra chez Slaughter, il trouva sa volaille froide et la mangea sans y prendre garde. Comme il savait qu'on se couchait de bonne heure dans sa famille, il ne jugea pas à propos de les déranger à une heure si avancée. Aussi, après cette sage réflexion, se décida-t-il à aller prendre une contremarque au théâtre de Haymarket, où, nous l'espérons bien, il passa une soirée agréable. Chapitre 27. Le vieux piano. La visite du major laissa John Sedley dans un état de très grande surexcitation pendant toute la soirée. Sa fille ne put lui faire reprendre ses occupations, ses distractions ordinaires. Il se mit à bouleverser tiroirs et cartons, à fouiller dans ses paperasses, à arranger tous ses dossiers pour l'arrivée de Joss. Il classa avec le plus grand soin ses reçus et ses lettres d'affaires, tous les documents relatifs à la société vinicole qui, après les plus magnifiques débuts, avait manqué tout à coup sans qu'on pût en expliquer le motif. Les prospectus de la société houillère, que l'absence des capitaux avait seul empêché de devenir une magnifique affaire. Un brevet d'invention pour une scierie mécanique destinée à fabriquer de la poudre à l'usage de ceux qui écrivent, sans garantie du gouvernement. Le vieillard passa toute la soirée, jusqu'à une heure fort avancée de la nuit, à réunir toutes ses pièces, allant et venant d'une chambre à l'autre, et portant d'une main tremblante une lumière à moitié éteinte. Il fit un paquet pour la scierie et un autre pour les vins, un autre pour les charbons, etc., etc. « Il va me trouver parfaitement en règle, Amy, » dit le vieillard d'un air satisfait. Amy lui répondit par un sourire. « Je crains bien que Joss ne regarde pas ses papiers. » « Vous n'y entendez rien, ma chère, » lui répondit son père en hochant la tête avec un air d'importance. Certes, il avait raison. Amy n'y entendait rien, et il est à déplorer que tant d'autres y soient au contraire si entendus. Toutes ces paperasses, bonnes pour l'épicier, une fois disposées sur son bureau, le vieux Sedley les couvrit soigneusement d'un mouchoir de couleur. C'était un cadeau de l'Inde envoyé par le major Dobbin. Puis il enjoignit du ton le plus solennel à la fille et à la dame de la maison de ne point toucher à tout cela. C'étaient les papiers qu'il avait préparés et mis en ordre pour l'arrivée de M. Joss Sedley le lendemain matin. De M. Joss Sedley, de la Compagnie des Indes Orientales, division du Bengale. Le lendemain matin, Amélia trouva son père sur pied. il s'était levé de très bonne heure. Jamais elle n'avait remarqué en lui une aussi grande agitation de corps et d'esprit. « Je n'ai pu fermer l'œil, ma chère Amy, » dit-il à sa fille. « Je pensais à ma pauvre Bessie. Je pensais que si elle avait été encore de ce monde, elle serait venue se promener avec moi dans la voiture de Joss. Elle a eu aussi la sienne autrefois, et elle y faisait fort bonne mine. » Ses yeux, en même temps, se remplissaient de larmes qui s'amassaient sur le bord de ses paupières et roulaient lentement le long de ses joues. Amelia les essuya et l'embrassa avec un doux sourire. Puis elle fit à la cravate du vieillard un nœud des plus magnifiques. Elle lui mit ensuite son épingle en or, triste reste de sa grandeur passée. Installée de la sorte dans son vieux fauteuil, dès 6 heures du matin, en grand costume des dimanches, il attendit l'arrivée de son fils. Dans la grande rue de Southampton, de splendides étalages de tailleurs provoquent par leur élégance l'admiration de tous les passants. Derrière les glaces de toute hauteur, se laissent apercevoir des habits dont la coupe gracieuse est faite pour charmer l'œil et tenter l'acheteur. La soie et le velours, l'or et le satin y rivalisent d'éclat et de magnificence. Sur des gravures qui n'ont point leur pareil dans la réalité, de merveilleux dandys avec une vitre à l'œil donnent la main à de petits enfants qui ont tous de grands yeux et des cheveux frisés. Ou bien encore ce sont des Amazones caracolant autour de l'Achille d'Apsley House. Bien que la garde-robe de Joss fût garnie des plus splendides vêtements qui soient sortis des ateliers de Calcutta, il pensa qu'avant de se présenter à la ville pour y faire une entrée convenable, il devait se munir de quelques-unes de ses galantes nouveautés. Il choisit en conséquence un gilet de satin cramoisi parsemé de papillons d'or, un autre gilet en velours rouge à carreaux blancs avec un collet rabattu, et compléta son costume par une cravate bleue de ciel et une épingle en or surmontée d'un cavalier en émail rose franchissant une barrière. Après ses emplettes seulement, il se crut en état de paraître dignement dans la grande cité. L'ancienne gaucherie de Joss et sa funeste maladie de rougir à tout propos semblaient avoir cédé désormais devant la conscience de sa valeur personnelle, et s'il éprouvait encore sous le regard des femmes, au bal du gouverneur, un certain malaise suivi de quelques rougeurs, si leurs œillades le faisaient fuir avec un reste d'effroi, c'était uniquement parce qu'il avait peur d'inspirer une trop forte passion dont il n'aurait su que faire, avec sa résolution bien arrêtée, de ne jamais se marier. Et cependant, tout Calcutta ne possédait personne qui pût y faire aussi bonne figure que Waterloo Sedley. C'était lui qui avait le train de maison le plus splendide. C'était lui qui donnait les meilleurs déjeuners de garçons. C'était lui qui avait la cuisine la mieux montée. Pour faire un habit à un homme de sa circonférence et de son importance, le tailleur demanda au moins un jour, qui fut employé par Sedley à chercher un domestique pour le servir, lui et son nègre, à aller retirer ses bagages, ses boîtes et les livres qu'il n'avait jamais lus, ses caisses de provisions, ses châles destinés il ne savait pas encore bien à qui, et enfin tout le reste de ses richesses indiennes. Le troisième jour, Joss se décida enfin à partir pour Londres dans tout l'éclat de sa nouvelle toilette. Le nègre installé sur le siège, à côté du domestique européen, claquait des dents et grelottait de froid sous le tartan qui l'enveloppait. Joss fumait dans la voiture et de temps à autre lâchait une bouffée de tabac par la portière. Il avait un extérieur si majestueux et si solennel que les gamins accouraient pour le voir passer et le prenaient tout au moins pour le gouverneur général. Quant à lui, on peut en être assuré, il se rendait volontiers aux invitations empressées des hôteliers de la route. Il ne manqua pas une seule fois de se rafraîchir dans toutes les petites villes qu'il traversa. Par précaution, il avait pris avant le départ un copieux déjeuner à Southampton, composé à la fois de riz, de poisson et d'omelette. L'estomac ainsi garni, il avait pu aller jusqu'à Winchester, où un verre de xérès lui avait paru nécessaire. À Alton, il était descendu pour goûter à la bière, en grand renom dans la localité. À Farnham, il s'était arrêté pour visiter le château de l'évêque et prendre une légère collation composée d'anguilles, de côtelettes, de haricots de Soissons, le tout arrosé d'une bouteille de Bordeaux. Se sentant un peu impressionné par le froid, au relais de Buckshot, et voyant son nègre claquer de plus en plus des dents, il avait avalé un grog pour se réchauffer. Si bien qu'en débarquant à Londres, il avait l'estomac garni de vin, de bière, de viande, de xérès, de poissons et de tabac, ni plus ni moins que la cabine aux provisions d'un bateau à vapeur. Il commençait déjà à se faire nuit lorsque la voiture arriva avec un bruit de tonnerre devant la petite porte de Brompton où, par un sentiment de tendresse filiale, il avait voulu descendre avant d'aller au logement que M. Dobbin avait dû arrêter pour lui chez Slaughter. Les habitants de la rue étaient tous à leurs fenêtres. La petite bonne de la maison accourut à la porte grillée du jardin. Les dames Clapp regardèrent par le soupirail de la cuisine. Amy était fort occupée au milieu de ses chiffons, tandis que le vieux Sedley, dans le petit salon, battait la campagne plus que jamais. Joss descendit de sa berline, s'avança avec un air majestueux à travers le jardin, en faisant crier le gravier sous ses pas. Il était escorté du nouveau domestique qu'il avait engagé à Southampton, et de son nègre, transi de froid, et dont la figure noire, sous l'impression de la température, était devenue couleur café au lait. Le pauvre gelé produisit une sensation immense sur Mrs. et Miss Clapp, qui, étant sortis de leur retraite pour écouter peut-être à la porte du salon, trouvèrent Loll Jewab étendu sur un banc, tremblant de tous ses membres, au milieu de lamentations pitoyables, et dont les grandes prunelles jaunes et les dents d'une blancheur éblouissante se détachaient sur l'ébène de sa figure. Car, mon cher lecteur, vous avez dû remarquer que nous avons adroitement fermé la porte sur Joss, son vieux père, sa douce et aimable sœur, pour laisser passer les premiers épanchements de la tendresse. Le vieillard fut très ému, sa fille ne le fut pas moins, comme on peut se l'imaginer, et Joss céda aussi quelque peu à l'attendrissement général. Après 10 années d'absence, quel est l'égoïste assez endurci pour que les souvenirs du passé, les liens de la famille, n'aient aucun pouvoir sur lui? La séparation semble consacrer les affections du jeune âge, et l'on reporte sa pensée sur les plaisirs évanouis, les chagrins dont ils furent entourés disparaissent dans l'éloignement pour ne plus laisser voir que ce qu'ils ont eu de doux et d'aimable. Joss avait réellement du plaisir à serrer la main de son père, malgré le refroidissement passager qu'avaient amené entre eux les entreprises commerciales. Il était enchanté de voir sa sœur, si charmante dans le temps, où le chagrin n'avait pas encore chassé le sourire de ses lèvres, et il suivait avec peine les rides profondes que l'indigence, le malheur et les années avaient marquées dans les traits de ce vieillard, traversé par de si cruelles épreuves. Amy, allant au-devant de son frère jusqu'à la porte, lui avait glissé quelques mots à l'oreille pour lui apprendre la mort de leur mère et lui recommander de n'en point parler devant le vieux Sedley. Précaution inutile, ce fut là le premier sujet par lequel débuta le vieux Sedley, et il versa d'abondantes larmes. L'émotion fut contagieuse pour le fonctionnaire de la Compagnie des Indes, et ce spectacle lui inspira de plus sérieuses réflexions qu'il n'était habitué à en faire. Le résultat de cette entrevue fut on ne peut plus satisfaisant sans doute, car lorsque Joseph fut remonté dans sa chaise de poste pour se faire conduire à son hôtel, Amy embrassa tendrement son père et lui demanda avec un air de triomphe si elle n'avait pas eu raison de lui soutenir que son frère avait un excellent cœur. Joss Sedley, touché en effet de la misérable position de ses parents, leur déclara, au milieu des premiers épanchements du cœur, qu'il voulait sans plus de retard les soustraire à la gêne et aux besoins, que pendant tout le temps qu'il allait passer en Angleterre, et il ne prévoyait pas qu'il dût en partir de sitôt, il mettait à leur disposition et sa maison et ce qu'il possédait. Amelia ferait à merveille les honneurs de sa table jusqu'au moment où elle deviendrait en son propre nom maîtresse de maison. En entendant ces paroles, la pauvre femme laissa tristement tomber sa tête sur sa poitrine, puis les larmes commencèrent à arriver en abondance. Elle avait bien saisi le sens caché sous ces paroles. Elle avait causé longuement à ce sujet avec sa jeune confidente Miss Mary, le même soir de la visite du major. L'indiscrète Polly avait fait une découverte qu'elle ne put garder pour elle, et dont elle s'empressa de faire part à Amelia. Elle lui raconta le tressaillement, le frisson de joie qui avait trahi Dobbin au moment où, M. Binet passant à côté d'eux avec sa jeune épouse, le major avait reconnu qu'il n'avait plus de rival à craindre. « N'avez-vous pas remarqué, disait-elle à Amy, comme il était hors de lui quand vous lui avez demandé s'il était marié? Et avec quelle vivacité il vous a répondu? Où avez-vous entendu un pareil mensonge? Ah, madame, madame, ses yeux ne vous ont pas quitté un seul instant. et je crois en vérité que ses cheveux ne sont devenus gris qu'à force de penser à vous. » Amelia, levant alors les yeux, regarda les portraits de son mari et de son fils suspendus au-dessus de son lit. Puis elle ordonna à sa petite protégée de ne plus jamais, au grand jamais, lui parler de semblables choses. Le major Tobin avait été l'ami intime de son mari, son protecteur affectueux et dévoué, celui de son fils. Elle l'aimait comme un frère, mais une femme qui avait eu le bonheur d'avoir un époux comme le sien, et à cette pensée ses yeux se tournaient vers le mur, ne pouvait songer à un nouvel hyménée. La pauvre Polly soupira et pensa au jeune chirurgien Tompkins qui, à l'église, avait toujours tourné les yeux de son côté et qui, par les œillades incendiaires qu'il lui lançait, avait presque amené son pauvre petit cœur à capitulation. Elle savait déjà le parti qu'elle prendrait si le hasard voulait qu'il mourût. Elle craignait qu'il ne fût poitrinaire, ses joues étaient si rouges et sa taille si mince. Ce n'est point qu'Amy, instruite de la passion du bon major, en éprouva de l'aversion ou du dédain. Quelle femme aurait pu se fâcher de l'attachement d'un cœur aussi loyal et aussi sincère? Sans encourager son admirateur, Amy avait pour lui cette estime et cette amitié qui méritaient bien un si complet dévouement. Et tant qu'il renfermerait en lui-même ses secrets sentiments de tendresse, oh, alors elle ne demandait pas mieux que de lui faire un accueil franc et cordial. Mais s'il venait à lui faire ses propositions, alors elle prendrait la parole pour mettre un terme à des espérances qui ne pouvaient jamais devenir une réalité. Ce soir-là, après sa conversation avec Miss Polly, elle dormit d'un sommeil plus profond. Elle éprouvait une joie qu'elle n'avait pas goûtée depuis longtemps. « Je suis bien aise, pensait-elle, qu'il n'aille pas épouser cette Miss O'Dowd. La sœur du colonel O'Dowd n'a pas la délicatesse de sentiment qu'il faut à la femme du major William. » Mais parmi les femmes qu'elle connaissait, laquelle aurait bien fait l'affaire? Ce n'était point Miss Binet, elle était trop vieille et avait trop mauvais caractère. La petite Polly était trop jeune. Mrs. Osborne, avant de s'endormir, ne réussit à trouver personne qui aurait pu convenir au major. Joss se trouvait si commodément installé à St. Martin Lane, y goûtait avec tant de charme les douceurs de son hookah, et se trouvait si bien à portée de tous les théâtres qu'il serait indéfiniment resté chez Slaughter s'il n'avait été harcelé par les vives instances du major. Notre digne ami ne laissa ni paix ni trêve à maître Joss que celui-ci n'eût exécuté sa promesse de prendre chez lui Amelia et son père. Joss était une pâte molle que le premier venu pétrissait à sa guise, et quant à Dobbin, il prenait plus à cœur ce qui intéressait les autres que ce qui le touchait personnellement. L'employé civil devint donc le point de mire de toutes les manœuvres si louables d'ailleurs de l'excellent Dobbin. Il ne faisait jamais la moindre objection toutes les fois que son ami lui disait de vendre, d'acheter ou de céder quelque chose. L'Oljewab, l'Indien, après avoir été quelque temps poursuivi des huées de l'impitoyable jeunesse de St. Martin Lane, toutes les fois qu'il montrait dans la rue sa figure basanée, fut renvoyé à Calcutta sur un bâtiment équipé en partie par le père de Dobbin. Toutefois, avant de quitter son maître, il lui apprit à préparer un pilau et un curry et à bourrer une pipe. La principale occupation de Joss et son plus grand plaisir était de surveiller la confection d'une jolie voiture qu'il avait commandée avec le major chez un carrossier voisin. Il avait fait emplette d'une paire de chevaux avec lesquels on le voyait se promener au parc ou faire visite aux amis qu'il avait connus dans l'Inde. Il sortit fréquemment avec Amelia, et lorsqu'il en était ainsi, on pouvait presque toujours voir le major Tobin sur la banquette de derrière. D'autres fois, le vieux Sedley accompagnait sa fille, et Miss Clapp, qu'Amelia emmenait quelquefois avec elle, était enchantée de se faire voir avec son châle jaune et dans cette splendide voiture à son jeune chirurgien dont elle apercevait parfaitement la figure à travers les fentes de la croisée. Peu après la première visite de Joss à Brompton, il se passa dans cette humble demeure où les Sedley avaient vécu 10 années de leur vie, une scène des plus touchantes. La voiture de Joss, non pas celle d'apparat, une autre qu'il avait louée temporairement, pour attendre qu'on eût fini de construire celle dont nous avons parlé, vint prendre un matin le vieux Sedley et sa fille pour ne plus les ramener dans cette demeure. Les larmes que le maître et la maîtresse du logis et leur fille versèrent en cette occasion furent aussi sincères qu'aucune de celles qui ont été versées dans le cours de cette histoire. Pendant cette longue durée de rapports journaliers et intimes, il ne pouvait se rappeler une dure parole sortie de la bouche d'Amelia. En toute occasion, même douceur et même bonté, même égalité de caractère, jusque dans les circonstances où Miss Clapp s'était montrée la plus exigeante et avait réclamé son loyer avec une certaine aigreur. Lorsque cette excellente et bonne créature fut sur le point de la quitter pour tout à fait, la maîtresse de la maison se reprocha son excessive dureté. Elle avait les larmes aux yeux en fixant sur le volet, avec des pains à cacheter, l'écriteau qui annonçait la vacance de ses petites chambres. Jamais, jamais, elle ne pouvait espérer de revoir de pareils locataires, et la suite ne confirma que trop ce funeste pressentiment. Miss Clapp se vengea de la perversité de l'espèce humaine en levant sur ses locataires de très lourdes contributions pour le thé et les rôtis. Le plus souvent, ils faisaient la moue et grognaient beaucoup. Quelques-uns ne payaient pas et aucun d'eux ne restait. La maîtresse du logis se prenait alors à regretter ses vieux et fidèles amis. Quant à Miss Mary, le jour du départ d'Amelia, son chagrin fut tel que nous renonçons à le dépeindre. Depuis son enfance, elle ne l'avait pas quitté un seul jour et avait pour elle une passion si vive et si tendre que lorsque la voiture vint chercher Amelia, la jeune fille s'évanouit presque dans les bras de son amie, dont l'émotion n'était pas moins grande que la sienne. Amelia aimait Miss Clapp comme sa fille. Pendant 11 ans, elle l'avait eue pour confidente de ses pensées et de ses peines. La séparation fut donc des plus déchirantes pour toutes les deux. Il fut du moins convenu que Mary irait souvent voir Mrs. Osborne dans la grande maison qu'elle allait occuper, et où Mary était sûre qu'elle ne serait jamais aussi heureuse que sous l'humble toit qu'elle quittait. Espérons qu'elle se trompait dans cette appréciation de l'avenir, car cet humble asile avait donné bien peu de jours de bonheur à la pauvre Amy. La fatalité semblait s'y être appliquée à l'y persécuter, et elle éprouva un sentiment pénible toutes les fois qu'elle fut obligée de revenir dans cette maison et de se trouver en face de la femme qui l'avait tyrannisée, dont elle avait eu à essuyer les bourrades et les reproches, et même la brusque familiarité, chose qui ne lui était pas moins pénible. Les serviles protestations de bons offices qu'Amelia en reçut lorsqu'elle se trouva en pleine voie de prospérité furent loin d'être beaucoup plus agréables à cette dernière. Sa voix n'avait pas assez d'inflexions diverses pour témoigner de son admiration pour cette nouvelle maison et pour l'ameublement qui la décorait. Elle tâtait avec les doigts toutes les robes de Mrs. Osborne et en estimait la valeur. Elle protestait bien haut et bien fort que rien n'était trop beau pour une si excellente dame. En recevant ces banales flatteries, Amy ne pouvait s'empêcher de se souvenir que c'était la même bouche dont les grossières et cruelles paroles lui avaient causé de si vives souffrances, que c'était la même personne qui le recevait si mal lorsqu'il lui était arrivé de lui demander des délais pour payer son terme, qu'il la taxait de folles dépenses lorsque par hasard elle achetait quelques petites douceurs pour son père et sa mère souffrants, qui enfin avaient pris plaisir à lui faire avaler jusqu'à la lie le calice de l'humiliation. Personne ne saura jamais tous les chagrins qui ont joué un si grand rôle dans la vie de cette pauvre femme. Elle ne voulut point les laisser voir à son père, dont l'imprévoyance était la cause principale de ses afflictions, et supportait sans se plaindre les conséquences d'une faute à laquelle elle était étrangère. Par sa nature humble et douce, elle semblait prédestinée au rôle sublime de l'immolation. Il n'est pas de malheur qui naît, dit-on, de son bon côté. En effet, la pauvre Marie éprouva un si violent accès de douleur du départ de son amie qu'il fallut la confier aux mains du jeune aide en chirurgie, dont les soins la rétablirent au bout de quelque temps. Amy, en quittant Brompton, laissa en souvenir à Marie tous les meubles que cette maison renfermait. Elle enleva seulement les tableaux placés au-dessus du chevet de son lit, ainsi que son vieux piano dont les sons étaient un peu sourds et cassés à cause de son grand âge, mais pour lequel elle conservait toujours une affection particulière. Elle était encore enfant lorsqu'elle s'en servit pour la première fois, c'était un cadeau que lui avaient fait ses parents. Et lorsque la ruine la plus complète vint s'abattre sur sa famille, il avait été sauvé du naufrage et lui avait été donné comme une seconde fois. Le major éprouva un vif plaisir lorsqu'en veillant à l'installation de Jos dans la nouvelle maison, qu'il avait choisie avec lui, il vit arriver de Brompton, au milieu des effets et des malles, le vieux piano qu'il connaissait bien. Amelia voulut à toute force le placer dans sa chambre, jolie petite pièce du second étage qui touchait à celle de son père et où le vieillard passait ses soirées. Lorsque les commissionnaires se présentèrent avec cette épinette, et que d'après l'ordre d'Amelia ils l'eurent placée dans la pièce désignée, Dobbin, ne se possédant plus, lui dit d'un ton très sentimental « Je suis bien heureux de voir que vous l'avez si soigneusement conservée. Je craignais que maintenant vous n'en eussiez plus nul souci. » « C'est peut-être la chose à laquelle je tiens le plus au monde, » répondit alors Mrs. Osborne. « En vérité, Amelia, » fit le major. Le major qui l'avait acheté, bien qu'il n'en eût jamais rien dit, ne pouvait supposer qu'Amy se trompât au point de croire qu'elle le devait à un autre et d'ignorer quel en était le donateur. Il allait hasarder la question que depuis si longtemps il avait sur ses lèvres, lorsque soudain elle reprit « Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? N'est-ce pas lui qui me l'avait donné ?»« Ah, j'ignorais, » fit le pauvre Dobbin, perdant tout à fait contenance. Amy ne fit d'abord aucune attention à l'air embarrassé du pauvre Dobbin, ni à l'expression piteuse que prit sa figure. Mais par la suite, tout cela lui revint à l'esprit, et en y réfléchissant, elle acquit la triste et douloureuse certitude que c'était William et non point George, comme elle se l'était imaginé, qui lui avait donné ce piano. Ce qu'elle avait aimé et conservé comme une relique de Georges, son plus cher trésor, enfin, ne venait point de celui qu'elle avait si tendrement chéri. Seule devant son piano, combien de fois elle s'était oubliée à penser à Georges, que de fois assise devant lui, pendant de longues heures, elle en avait tiré des notes mélancoliques, tout en versant des larmes silencieuses et secrètes. Puisque le piano ne venait plus de Georges, dès lors il perdait tout son prix. Aussi, lorsqu'après cette découverte, le vieux Sedley lui demanda d'en jouer, elle lui répondit que l'instrument était faux à déchirer les oreilles, qu'elle avait mal à la tête et qu'elle était incapable d'y mettre les mains. Puis ensuite, suivant son habitude, elle se reprocha son égoïsme et son ingratitude et résolut de faire réparation à l'honnête William du dédain qu'elle ne lui avait pas témoigné, mais qu'elle avait ressenti pour son piano. Comme on était quelques jours après dans le salon, et tandis que Jos, selon son ordinaire, se laissait aller aux douceurs du sommeil, Amelia, d'une voix défaillante, dit au major Dobbin « J'ai à vous demander pardon. »« Et à propos de quoi ?» répliqua celui-ci. « Mais à propos de ce petit piano, je ne vous ai jamais remercié de me l'avoir donné. Et il y a bien des années de cela, avant mon mariage. Je croyais qu'il me venait d'un autre. » « Je vous remercie, William. » En même temps, elle tendit la main, mais le cœur de la pauvre femme était bien gros, et ses yeux se remplirent bientôt de larmes. William ne put y tenir davantage. « Amelia, Amelia, » lui dit-il, « j'avais acheté ce piano pour vous. Je vous aimais alors, comme je vous aime encore maintenant, car il faut bien que je finisse par vous le dire. Je crois que mon amour a commencé dès le premier jour où je vous ai vu. » Lorsque Georges me conduisit chez vous pour me faire voir la femme à laquelle il avait engagé sa foi. Vous étiez alors une jeune fille en robe blanche, en longue boucle. Vous êtes arrivée en chantant, il me semble vous voir encore. Le soir, nous sommes allés au Vauxhall. Dès lors, je n'ai plus pensé qu'à une femme au monde, et cette femme, c'était vous. Pendant ces 12 années qui viennent de s'écouler, je crois n'avoir pas été 1 heure entière chaque jour sans penser à vous. J'étais venu pour vous le dire avant mon départ pour l'Inde, mais alors vous m'avez paru si indifférente et si froide que je n'ai pas eu le courage de vous faire cet aveu. Ma présence ou mon départ peu vous importait alors. « Ah, je suis une ingrate, » reprit alors Amelia. « Non, non, mais une indifférente, » continua Dobbin sur le ton du désespoir. « Et d'ailleurs, de quel droit puis-je prétendre inspirer d'autres sentiments à une femme ?» Je sais maintenant à quoi m'en tenir. Votre découverte sur le piano vous a brisé le cœur, vous regrettez qu'il vienne de moi et non de Georges. Mais pardonnez à un moment d'oubli, sans lequel je n'aurais jamais parlé comme je viens de le faire, à un égarement d'une minute et à la folle pensée qui m'a fait croire qu'un dévouement et une constance de plusieurs années pouvaient plaider en ma faveur. C'est vous qui êtes bien dur et bien cruel maintenant, dit Amelia en s'animant à son tour. Georges est toujours mon mari sur la terre comme dans le ciel. Comment pourrais-je jamais en aimer un autre que lui? Encore maintenant, je lui appartiens comme la première fois où vous m'avez vu, mon cher William. C'est lui qui m'a appris à connaître tout ce qu'il y avait de bon et de généreux en vous, à vous aimer comme un frère. Et depuis lors, n'avez-vous pas fait tout au monde pour moi, pour mon enfant? Vous, mon meilleur ami, mon protecteur le plus dévoué. Ah, si vous étiez venu quelques mois plus tôt, vous m'auriez épargné peut-être cette cruelle et pénible séparation. J'ai manqué en mourir, mais, hélas, vous n'étiez point là, quoique mes vœux, mes prières, vous appelassent alors, et on m'a séparé de mon enfant. On l'a enlevé à sa mère. William, c'est un noble cœur que celui de Georgie. Soyez son ami et restez encore le mien. » Sa voix s'éteignit avec ces dernières paroles, et Amelia pencha la tête sur l'épaule de Dobbin. Le major, l'entourant de ses bras, l'attira vers lui comme un enfant et déposa un baiser sur son front. « Vous me trouverez toujours le même, chère Amelia, lui dit-il. Je ne vous demande que votre affection. Je ne veux rien de plus. Permettez-moi seulement de rester près de vous et de vous voir souvent. » « Oui, souvent, répondit Amelia. C'est ainsi qu'il fut permis à Dobbin de la voir en toute liberté et d'espérer dans l'avenir, comme le petit écolier qui, n'ayant pas d'argent dans sa poche, peut du moins soupirer tout à son aise devant la boutique du pâtissier.